Nous sommes 5 minutes en avance sur les questions, mais on va les prendre quand même.
Bonjour, je suis Lynne Pedneau, pharmacienne à Sainte-Justine. Je suis membre du comité d'éthique de la recherche, puis aussi je travaille en oncologie pédiatrique. Alors, j'ai pris des petites notes. Juste avec la nouvelle proposition du mécanisme multicentrique, je pense qu'il faudra avoir peut-être une attention pour des besoins de formation pour soit le DG ou la personne qui va être mandatée pour accepter les projets dans d'autres centres. Pour reprendre ce que M. Cournoyer a dit, vous savez, dans les compagnies pharmaceutiques, il peut arriver deux molécules qui ont à peu près la même variation sur un même thème, qui font à peu près la même efficacité. Donc, c'est possible que par exemple, dans un comité A et dans un comité B, les compagnies ont approché le comité A et le comité B pour présenter leurs molécules qui sont somme toute semblables, et que les comités participants X, Y, Z se retrouvent finalement à avoir ces deux projets-là en même temps. Donc, est-ce que la personne qui va être à même d'approuver ces projets-là, est-ce qu'elle va être à même de voir qu'il y a peut-être risque de sursollicitation? Il faudra que cette personne-là, qui est soit le DG ou une autre, tout employé de l'hôpital, ait des compétences et de la formation, puisqu'elle va être uniquement seule. De ce qu'on comprend actuellement, ça va reposer sur une seule. Pour avoir travaillé dans à tous les mois, on travaille dans les comités d'éthique, on voit que souvent, la question de perspective et de professionnalisme fait en sorte que parfois, on identifie des problèmes liés à ça, puis ça repose pas uniquement sur l'évaluation qui est faite par une personne. Ça c'est mon premier point. Le deuxième point aussi, c'est par rapport à la formation, par rapport au formulaire de consentement. Je pense que c'est fort possible, puis c'est souhaitable d'avoir des clauses standards au niveau légal, par exemple. Moi, ce que je m'interroge, est-ce que tous les comités vont être sensibles à, par exemple, dans un projet de compagnie pharmaceutique, déplacer l'information dans laquelle on informe que le patient risque d'être dans un groupe placebo, qui des fois, ça se retrouve à la page 6, 7, 8 du consentement. Est-ce que tous les comités vont, je pense qu'en général, les gens le font, mais essayer de déplacer cette information-là pour éclairer les participants. On a parlé beaucoup de littératie. Ça m'a amené quasiment l'idée de dire, est-ce qu'on ne devrait pas faire un formulaire tout simple d'information avec des pictogrammes, avec une mise en page qui est beaucoup plus dynamique, puis réserver tous les aspects de confidentialité, de liberté de participation dans un document qui est un peu en annexe. Ça m'a amené à se dire, est-ce qu'on va pas se retrouver avec quelque chose, une solution qui pourrait aider à ce que les participants se perdent pas dans le contrat que parfois les compagnies pharmaceutiques, via le consentement, veulent leur faire signer finalement, parce que des fois c'est plus un contrat que de l'information, parce que des fois l'information est un peu dissimulée. Puis j'ai des exemples en tête pour affirmer ça.
Est-ce que je peux réagir à votre deuxième point?
Oui.
Oui.
Allez-y.
Je pense que ce qui est important, là, puis moi je suis complètement déconnecté de votre réalité de comité d'éthique, là. Il y a vraiment les programmes de recherche avec des sujets, des participants, puis il y a aussi les essais cliniques, là. Puis, les essais cliniques, moi, j'avais tendance à penser que ça se ressemblait, là, puis les enjeux étaient... Mais ça ne l'est pas, je le sais. Puis de plus en plus, il y a des traitements biologiques, il y a des cellules souches, il y a toutes sortes de choses maintenant, là. C'est pas seulement dans notre secteur. Mais je pense qu'un aspect très important dans cette question-là, c'est vraiment d'être capable de bien cerner dans le consentement. Là. Une chose que j'ai appris rapidement, c'est les enjeux éthiques et la procédure et l'encadrement pour assurer que tout ça va demeurer, va respecter les enjeux éthiques. Ça fait 17 ans, 18 ans que je soumets des documents au comité d'éthique. C'est pas si longtemps que ça, mais ça me donne une bonne idée. Parfois, c'est pas toujours clair, la distinction entre les enjeux éthiques et l'encadrement qu'on doit mettre en place pour assurer que les enjeux éthiques ne sont pas touchés. Et ça, là, plus vous allez être capable, les comités d'éthique, de distinguer ça dans le consentement, plus ça va être facile d'expliquer aux participants et aux participantes la distinction. Ça, il y a un enjeu éthique là, et on a mis une procédure pour faire en sorte que ça soit protégé, là, qu'on ne touche pas à ça. Mais c'est une procédure, là, c'est pas un enjeu éthique. Je pense, je vois des gens qui disent oui, là, ça, pour un chercheur, là, moi, j'ai eu la chance de travailler avec des spécialistes qui me l'ont expliqué, là, tu sais. Mais quand j'arrivais avec mes conseillères génétiques ou les infirmières de recherche, eux, c'était un enjeu d'expliquer aux participants, là, la distinction. Parce que là, le participant pense, ouh, c'est grave. Non, ça, c'est une procédure. Ça, c'est un mécanisme qu'on a mis en place, là, pour assurer que les enjeux éthiques ne seront pas tués. Donc, parce que, et je sais pas, là, mais c'est parce que c'est comme il y a une époque, là, je ne sais pas si c'est dépendamment des comités d'éthique, moi, on passait dans 12 ou 15 comités d'éthique, j'avais eu l'intelligence de dire, je veux seulement qu'un formulaire pour les 12 comités d'éthique. Mm-hmm. Ça, ça a été une formation fantastique, ça. Mm-hmm. Je pense que ça, c'était avant le multicentrique, là. J'ai vécu ça. Et ça a été une formation parce que, dépendamment des comités, les deux points de vue étaient bons. Comme mm-hmm. je dis toujours, un 25 sous n'est jamais assez mince pour avoir qu'un seul côté. Hein. Il y a toujours deux côtés, là. Mais ça nous a soulevé beaucoup d'enjeux. Puis, ne serait-ce que les fameuses autographes sur chaque page, là.
Mm-hmm. Les initiales.
Ça, là, je vais vous donner l'exemple pointu, là. Puis je sais que je dérape peut-être, mais...
On avait 5 minutes de plus.
Là, c'est que la majorité signait toutes les pages, puis signait, puis contre-signait avec des témoins et tout à la fin, mais il avait oublié des initiales sur une page.
Est-ce que c'est un essai clinique, en fait?
Non,
parce que
non,
ça, c'est une obligation dans les essais cliniques.
Oui, mais c'est pour ça que je vous parle de mm-hmm. Moi, je ne fais pas d'essai clinique avec les médicaments.
Okay. Uh-huh.
Donc ça, c'est parce qu'il y a toutes sortes d'enjeux. Et là, le comité nous avait suggéré à l'époque, bon, ben ça prend toutes les pages. Donc, on retourne, puis on explique, puis on le met en jaune. Puis là, il y avait deux pages qu'il n'y en avait pas. Ils nous reviennent avec une page où il y avait les initiales, pas l'autre page. Là, le comité d'éthique, j'étais tellement content. Ils ont dit, là, on est en train d'enfreindre un enjeu éthique. C'est-à-dire, on n'harcèlera pas la madame, là, 4 fois, là, mm-hmm. pour qu'elle signe le consentement qu'elle a déjà signé à la fin, là.
Mm-hmm.
Puis que toutes les, puis les témoins sont là. Mm-hmm. Donc, c'est là, moi, là, c'est le meilleur exemple entre une procédure mm-hmm. puis un enjeu éthique. Là. Mm-hmm. Parce que là, je me disais, pauvre madame, elle va se sentir comment, là, si on y retourne une 4e fois son conseil. Ben, c'était 3, on a arrêté à 3, à 2. Mm-hmm. À 2, on a appelé le comité d'éthique. Puis là, le comité d'éthique a répondu en temps réel. Puis on... Non, mais c'est ça l'importance, c'est que le comité d'éthique a dit, là, ça va, on comprend, là, tu sais. C'est un exemple. Mais ça, là, je sais que je me répète, mais... À chaque fois qu'on peut distinguer les enjeux éthiques d'une procédure légale puis d'un encadrement légal, ça va aider pour le participant, puis ça va aider le chercheur aussi.
Votre premier commentaire interpellait beaucoup nos collègues du ministère, évidemment, mais je me permettrais de commenter que, comme le disait Richard Carpentier à propos de d'autres juridictions, alors que la responsabilité de revue initiale peut être plus facilement déplaçable, centralisable. Mm-hmm. Je pense qu'il nous reste beaucoup à réfléchir sur les fonctions locales qui sont importantes, qu'il faut préserver et comment les préserver. Vous parlez de la convenance. La convenance, dans l'ancien système, ça incluait pas un jugement éthique, parce qu'il y avait toujours le comité éthique local qui exprimait cette opinion-là. Mm-hmm. Le suivi continu. Évidemment, je pense qu'il va falloir se demander comment on évite d'appauvrir localement nos milieux.
Mm-hmm. Est-ce que je peux me permettre...
Je vois Claudine qui dit...
Oui. Est-ce que je peux me permettre un dernier point?
Non, m'écoutez pas.
Est-ce que je peux me permettre un dernier point? En fait, l'autre préoccupation que j'ai, c'est que, de ce que j'ai compris du multicentrique, qu'on veut faciliter pour les chercheurs, par exemple, en génétique, au lieu de présenter dans 200 centres à travers le Canada. Je trouve ça, c'est tout à fait louable d'avoir une seule évaluation, puis de faciliter aussi les enjeux par rapport aux compagnies pharmaceutiques. La chose que je me demande en ayant fait en sorte que le multicentrique soit mis en place dans un délai très court, est-ce qu'on permet, par exemple, la collaboration entre des chercheurs qui feraient de la recherche collaborative en en oncologie pédiatrique, c'est une réalité. Il y a 17 centres au Canada qui font de la recherche en oncologie pédiatrique, dont 3 au Québec. Les choses qui risquent d'arriver, c'est que, est-ce que ça va être le premier qui va avoir le projet prêt, qui va l'envoyer à son comité, pensant que oui, je vais recruter des participants dans mon centre? Est-ce qu'ils vont pas se retrouver avec une duplication, qu'il y a des projets de toute façon qui vont se retrouver en même temps? Puisque là, au mois de décembre, ça se peut que Québec et le Children présentent les mêmes projets que nous à Sainte-Justine, par exemple, puisque le délai est très court, puis ça amène moins de l'aspect collaboratif que M. Deschamps disait qui pourrait être fait en aval. Moi, ça m'a un petit peu interpellé tout ça, ce court délai, pour essayer de favoriser ça, là, c'est ça, notamment. Voilà.
Je peux répondre à ça?
Mon dernier point. Merci.
Oui.
Oh, il n'y a pas plus de fil. J'aimerais juste complémenter sur votre dernier commentaire. Puis en particulier par rapport à la question de l'oncopédiatrique, et puis je pense que ça se reflète dans de nombreuses spécialités ou aires thérapeutiques, là, selon le vocabulaire que vous utilisez. Je pense que collectivement, les gens qui travaillent au sein d'une même spécialité médicale, dans le meilleur intérêt de tous, devraient se consulter en amont, avant le 1er décembre, de façon à trouver un système en toute courtoisie et en collaboration, pour pas qu'il y ait une perte d'expertise qui se fasse dans des petits centres. C'est sûr que si c'est une espèce d'économie de marché puis de compétition qui s'installe, mettons, prenons par hasard les deux instituts cardio, par exemple, OK? On peut se faire compétition l'un envers l'autre, ou on peut essayer de mettre en place quelque chose qui va faire en sorte que tout le monde va garder sa part de travail, puis ça va faire en sorte, je pense, que c'est pas ceux qui le méritent le moins qui vont avoir le plus d'ouvrage. Alors ça, j'y suis, je tenais le coup.
Oui.
Monsieur était là.
Oui.
Une question à Vincent. Est-ce qu'il y a des participants à la recherche qui ont eu affaire aux conseillers? Est-ce que ça ferait partie d'une possibilité? Autrement dit, est-ce que ça fait partie de la description de tâche? Et est-ce que c'est arrivé? Deuxièmement, on a parlé du suivi continu, suivi actif. J'aimerais vous entendre sur le modèle à privilégier, parce qu'on parle de partenariat, de travail commun. L'autre modèle, c'est l'audit, là, c'est-à-dire qu'on arrive, on débarque, on vérifie. Donc, j'aimerais vous entendre sur le modèle que vous souhaitez qui est le plus, qui est peut-être le meilleur à la fois pour la qualité de la recherche, puis aussi l'éducation de toutes les personnes impliquées en recherche.
Alors, en ce qui concerne le premier volet de ta question, François, en fait, non, ça ne fait pas partie de mon mandat. Et si un participant à la recherche prenait contact avec moi, probablement, ben, à moins que ça soit que ça soit pas un contexte de plainte, là, seulement c'est ce qu'on aurait pu là, penser là, d'un appel d'un patient, je le dirigerais à commissaire aux plaintes. Si c'est pour avoir de l'information générale, oui, absolument, c'est probablement moi qui prendrais le téléphone là, pour de l'information générale. D'ailleurs, cette information-là figure dans le formulaire de consentement, là, effectivement. Et en ce qui concerne le suivi actif, ben, je pense que hier, les dames de l'Institut cardio ont montré un exercice, moi, qui me tente très bien aussi, d'essayer de voir post-hoc quelle a été l'expérience du participant à la recherche de façon indépendante de l'équipe du chercheur, puis de voir un peu qu'est-ce qui se passe dans nos murs. Je pense aussi qu'on peut... C'est drôle, hein, mais je considère que quand je me déplace rencontrer les équipes de recherche chez eux, je fais une espèce de suivi actif. Je vois comment que ça se passe. Je vois si les portes sont fermées pendant que le processus de consentement est enclenché. Je peux voir l'environnement physique. Peut-il avoir un impact, dans le fond, là, sur la façon dont les choses se déroulent? Il y a l'audit, mais je pense qu'il peut y avoir aussi d'autres formes là, de collecte de données pour s'assurer là, d'une recherche de qualité en nos murs.
Deux courtes remarques. Monsieur Simard, à propos de la signature en bas de page,
ah oui.
Je reviens là-dessus.
J'ai pris un exemple comme ça.
D'ailleurs, j'enseigne à des jeunes étudiants à l'Université de Montréal, et même pour les essais cliniques, je leur dis que c'est pas nécessaire. Et je demanderai à quelqu'un de me montrer où est-ce que c'est dans la normalisation. Mais aussi, imaginons que ça soit nécessaire. C'est pas parce que tu mets une un crochet en bas de la page que tu montres que tu l'as compris. Donc, c'est une vision juridique du consentement. Donc, on devrait bannir ça complètement. Mon deuxième point, M. Lajoie, vous auriez dû ajouter dans vos fonctions les questionnements avec les autres comités d'éthique. Parce que je me rappelle qu'on s'est parlé pour harmoniser. C'était même pas un projet multicentrique. Je pense que c'était sur... Est-ce qu'on peut avoir un groupe contrôle? C'est un petit frère, un petit sœur qui n'est pas malade. Est-ce que ça respectait l'article 21? Donc, vous nous aviez consulté à Sainte-Justine là-dessus. Et je trouvais ça bon parce que ça montre que les comités d'éthique peuvent communiquer puis harmoniser leur point de vue sans même le multicentrique.
Absolument.
Merci.
Oui, bonjour, Martin Letendre de Veritas CRB. Écoutez, la présentation a soulevé plusieurs points qui étaient fort intéressants et je dois faire peut-être une continuité avec la présentation d'avant le dîner. Docteur Cournoyer, vous avez mentionné que dans le cadre d'un multicentrique, ça va être important que les comités d'éthique aient confiance en l'évaluation du comité évaluateur. Et cette notion de confiance-là... Oui.
Ben, je pense que c'est pas... J'ai souvent entendu à propos de la version précédente du multicentrique, où plusieurs fois, on m'a dit que c'était important que les comités d'éthique fassent confiance. Pour moi, c'est pas vraiment ça qui est important, c'est il faudrait que les sujets de recherche puissent faire confiance, qu'une seule revue va être assez.
J'arrive justement à ça. Je n'ai pas vu, et je sais que les diapos ont passé rapidement, puis c'est une inquiétude, même juste dans le titre de la thématique 4, qui est la responsabilité partagée des comités d'éthique de la recherche et des chercheurs. Dernière fois, j'ai lu le plan d'action ministériel, il manque l'institution, puis il manque le promoteur. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises, je pense que mon inquiétude, je vois, puis encore là, plus qu'un commentaire de citoyen, nous, les comités d'éthique privés, on est à l'extérieur du réseau, puis on nous tient à l'extérieur du réseau. Ça, c'est un éditorial. quand je regarde, entre autres, à certains modèles de multicentriques qui ont lieu pas plus loin qu'en Ontario, on est arrivé à une approche où, pour s'assurer, justement, qu'il y ait un partenariat entre les comités d'éthique, il y a un processus d'audit. Donc, pour être un comité évaluateur, il faut montrer, justement, qu'on a rencontré les standards pour pouvoir faire le travail. Et ce serait peut-être intéressant, je pense, je comprends qu'il va y avoir une période transitoire, mais d'établir...
Je dois dire qu'il n'y a personne officiellement, sauf moi, qui a endossé le modèle que je propose. Quand je dis professionnalisation, c'est aussi beaucoup le niveau de responsabilité que détient un professionnel qui doit rencontrer des normes, qui est sujet à être contrôlé pour ses compétences. Et donc, ce que vous décrivez, pour moi, ça se situe très, très bien dans la professionnalisation des comités d'éthique.
J'arrive avec ma question. La question est pour... c'était plus une question de comment voir. Et puis, je regarde le rôle et le rôle qui est joué par Vincent Lajoie au CHU de Québec, et non au CHU. Une introduction, mais... Être un comité d'éthique centrale peut être un comité d'éthique locale en matière de suivi éthique, en matière... c'est deux bêtes différentes. Comment, Vincent, voyez-vous votre rôle en tant que comité évaluateur d'un projet multicentrique? Ça, vous n'allez pas prendre votre voiture et vous promener d'un site à l'autre. Mais c'est un rôle qui est important, c'est un rôle qui doit être joué par les institutions, qu'on soit dans un modèle multicentrique ou non.
Je deviendrai sans doute un grand voyageur.
En fait, je pense que la façon dont les choses, n'en demeure pas moins, je pense que dans l'esprit du mécanisme qui nous a été expliqué ce matin, je pense que le CER non évaluateur conserve une certaine responsabilité de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des murs de l'établissement. Je pense que c'est incontournable, ça. J'ai pas pris le temps de lire la version finale du document, mais dans sa version qui était une ébauche que j'ai pu consulter, il était écrit noir sur blanc que le CER devait se tenir au courant des activités qui se passaient dans ces murs et devait être à même de pouvoir supporter un chercheur alors qu'il est un CER non évaluateur. Alors, en ce sens-là, je pense que quelle forme ça va prendre exactement, c'est peut-être un peu encore tôt là pour en parler, mais il y a quelque chose à faire sous une forme ou sous une autre, et puis ça peut sûrement prendre la forme de suivi actif.
J'aurais commenté aussi, au risque de pas être très populaire, que il faut peut-être penser un petit peu plus en dehors de la boîte, là, que les CER évaluateurs, je pense, sont appelés à devenir des CER du réseau, et que les responsabilités locales de l'organisation de l'éthique du réseau vont devoir être définis et comblés. Je pense que de penser que ça va continuer indéfiniment sur le modèle de nos CER locaux, il y en a 60 au Québec. Ils vont avoir combien de projets par année, quelle expertise ils vont pouvoir maintenir? Bon, c'est pas moi qui prends des décisions, mais je pense que les lois de l'entropie vont jouer.
Il y a un point que j'aimerais... suite aux présentations de mes deux collègues. J'espère que vous êtes convaincus que la formation des chercheurs qui sont responsables de ces projets de recherche-là, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Puis, si vous retournez juste avec ce message-là, parce qu'en réalité, là, je suis sûr que moi, j'ai l'opportunité de travailler avec Emmanuel puis l'équipe à l'Université McGill, mais c'est que j'ai l'impression que lorsqu'on dépose le dossier, c'est qu'on répond d'entrée de jeu aux questions. Puis les chercheurs, lorsque moi je discute avec Emmanuel, j'ai fait pour perdre son temps parce que j'ai eu une formation, puis je comprends, puis ça résonne. Tu sais, c'est, je suis pas comme une cloche, là, mais oui, oui. Non, mais je comprends, puis on arrive tout de suite à une entente, puis on dépose au comité d'éthique, puis il y a quelqu'un comme Vincent qui est là pour nous parler. On dirait que tout ça va plus vite, ça accélère. Donc, il faut vraiment voir la formation. Puis d'ailleurs, ça devrait être bon pour le ministre de l'Éducation aussi, là. Mais la formation, c'est toujours un investissement. Puis c'est pas là qu'il faut couper, tu sais.
Bon. Je pense que vous visez le mauvais ministère. Mais sur ça, on vous a volé deux minutes de café et on vous libère.